RCF. En une trentaine d'années, la Chine est passée d'un pays émergent à la deuxième puissance mondiale en passe de devenir la première. Mais comment ce pays gigantesque, ce peuple d'1,4 milliard d'habitants, vivent-ils cette mutation? Qui dirige vraiment ce pays? L'omnipotent Xi Jinping ou le Parti communiste et ses 98 millions de membres? Les Chinois vivent-ils dans une société orwellienne, notée et surveillée en permanence par des caméras? Comment démêler le vrai du faux sur ce que nous croyons savoir de la Chine? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler avec notre invité aujourd'hui, Frédéric Lemaître. Bonjour et bienvenue dans cette émission Visage. Pendant 5 ans, de 2018 à 2023, vous avez vécu en totale immersion en Chine. Vous étiez basé à Pékin comme correspondant du quotidien Le Monde. Vous publiez aux éditions Talendier le fruit de votre travail et surtout votre analyse de cette société chinoise dans un livre intitulé « 5 ans » dans la Chine de Xi Jinping. Alors avant de partir, nous immerger avec vous dans l'empire du milieu, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un correspondant permanent dans un pays envoyé par un grand journal comme Le Monde ?
Être correspondant, c'est être à l'étranger et essayer de résumer l'actualité de ce pays pour les lecteurs français. Donc, être correspondant en Chine, c'est particulier. Il y a deux particularités. La première, c'est évident l'immensité du pays. J'étais auparavant 6 ans correspondant en Allemagne. Je peux dire que je couvrais à peu près l'Allemagne parce que je crois avoir été à peu près en mesure de comprendre toutes les grandes tendances de la société allemande, à peu près.
Et en Chine, ce n'est pas possible.
En Chine, c'est impossible. Donc, je ne dis jamais que je couvre la Chine. On ne couvre pas la Chine, voilà, à cause de l'immensité du pays et aussi de son système politique.
Mais si on vous envoie comme correspondant, c'est-à-dire que si un journal comme Le Monde ou comme d'autres journaux envoie quelqu'un sur le terrain pour y vivre, c'est bien qu'on attend quelque chose de particulier de lui, non ? Que d'un journaliste qui est dans un bureau à Paris.
Le Monde est le quotidien français qui a le plus de correspondants à l'étranger. Cela nous coûte cher, mais nous en sommes fiers parce qu'effectivement, quelle est la valeur ajoutée du correspondant ? C'est justement d'être au cœur de la société du pays qu'il couvre, voilà, donc...
Et ça, c'est important, j'ai passé 5 ans, pour sentir
évidemment, j'ai passé 5 ans avec les Chinois, donc évidemment, on sent... Alors, il y a une autre vision du monde qui arrive, je veux dire, couvrir la Chine de Pékin, c'est pas couvrir la Chine de Paris, et en plus, enfin voilà, on est entouré de Chinois, on sent aussi cette société, on le voit bien.
Mais alors, vous dites, c'est difficile de couvrir la Chine, parce que, un, bien sûr, le pays est immense, le pays est complexe. Le pays, j'imagine, on ne circule pas en Chine comme on circule en Allemagne. Par exemple, si vous vouliez aller au Tibet ou chez les Ouïghours au Xinjiang, vous deviez demander des autorisations spéciales, non ?
Oui et non. Moi, ce qui a marqué mes années chinoises, puisque j'y étais d'octobre 2018 à décembre 2023, c'est évidemment été la politique zéro Covid. Donc, durant ces années, notamment 2022, on ne pouvait pas, quasiment pas voyager. Mais en tant que journaliste, depuis 2008, vous pouvez aller dans toutes les provinces sans demander d'autorisation préalable.
Même les journalistes.
À l'exception du Tibet, qui nous est totalement interdit. Alors ailleurs, on peut circuler, entre guillemets, librement. Bon, la liberté s'arrête à l'entrée de l'hôtel, dans le meilleur des cas, puisque dès que vous allez à l'hôtel, l'hôtel est obligé d'envoyer votre passeport tout de suite au commissariat, et là, les ennuis peuvent commencer.
Mais alors, Frédéric Lemaître, pourquoi est-ce qu'il vous a fallu 7 mois pour obtenir un visa pour être correspondant en Chine ?
Quand on voit que mon successeur a mis 1 an pour l'avoir, la question c'est pourquoi n'avoir mis que 7 mois pour avoir un visa ? Donc ça, il faudra le demander aux autorités chinoises. Les autorités chinoises mettent un certain temps à délivrer des visas aux journalistes étrangers. Donc il y a une interprétation qu'évidemment, qu'ils n'ont pas forcément très envie de nous voir. Donc ils nous donnent quand même des visas parce que ils sont quand même la deuxième économie mondiale et voilà.
Mais ils l'interdisent aux Américains, Je crois que vos confrères américains n'ont pas l'autorisation de résider.
C'est plus compliqué que ça. Il y a Trump qui a décidé en 2019, je crois, de ne plus accorder de visa, de désigner certains journalistes chinois comme espions. Du coup, les journalistes américains en Chine ont vu leur visa, eux aussi, supprimé. Et maintenant, il y a de nouveau quelques journalistes américains qui sont en Chine.
Mm-hmm. Est-ce que vous n'êtes pas perçu comme un espion potentiel en étant journaliste correspondant en Chine?
Un espion potentiel, sans doute, mais surtout un fauteur de troubles. À vrai dire, je pense que c'est davantage ça qui pose problème aux autorités chinoises. Donc, espion potentiel, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ils ne me l'ont jamais dit, ni même suggéré. En revanche, être un empêcheur de tourner en rond, oui, bien sûr.
Vous avez pu travailler librement, Frédéric Lemaître, en Chine pendant ces 5 ans?
J'ai pu travailler, je n'ai pas pu travailler librement. C'est même le premier pays de ma longue carrière où je me suis auto-censuré. Non pas par danger pour moi, honnêtement, je ne me suis jamais senti en danger en Chine, je ne courais pas de risques physiques, je ne cherche pas à jouer les héros, mais pour ne pas mettre en danger mes interlocuteurs chinois. Donc elle est là, la limite de l'exercice en Chine.
Ça, c'est important, de ne pas mettre en danger les personnes que vous interviewez
évidemment,
sur
évidemment
place.
Évidemment que c'est important, ouais. Évidemment, bien sûr. Donc, et puis les Chinois se méfient de vous, voilà. Et puis, par ailleurs, les officiels chinois hésitent de plus en plus, pour être plus explicite, refusent de plus en plus souvent de vous accorder la moindre interview. Donc, je ne veux pas dire qu'on travaille librement en Chine, non.
Est-ce que c'est vrai, Frédéric Lemaître, que vous ne pouvez pas être en tête-à-tête avec un membre du parti?
C'est vrai que théoriquement, les membres du parti, quand ils voient un étranger, doivent être 2. Donc pour toutes les rencontres officielles, oui, c'est vrai. Et même certaines rencontres privées, c'est même parfois presque assez touchant. Je me souviens d'avoir été invité à dîner par un grand juriste chinois, qui est d'ailleurs passé par une grande école française. Donc il m'a invité à dîner pour parler du droit chinois. Et il avait été, je crois, obligé d'inviter également à ce déjeuner une étudiante chinoise qui manifestement était là pour le surveiller.
Ce qui fait que 98 millions de personnes en Chine qui sont membres du parti ne peuvent pas vous rencontrer simplement et librement. Quoi.
Voilà, ou en tout cas si elles le font, parce que quand même certains nous rencontrent, c'est toujours un peu risqué. Voilà, je raconte une anecdote qui est assez touchante aussi. J'ai fait évidemment un petit pot pour mon départ et avec quelques dizaines de personnes et les Chinois présents, plusieurs m'ont demandé qui étaient les autres Chinois qui participaient, parce que voilà, répondre à une invitation d'un journaliste occidental, même sur le départ, ça peut ne pas être politiquement bien vu.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Frédéric Lemaître, nous allons découvrir ensemble ces 5 années dans la Chine de Xi Jinping, pour reprendre le titre de votre livre, ces 5 années que vous avez passées à essayer de comprendre la société chinoise, et notamment... Vous écrivez 5 années les plus passionnantes d'une vie professionnelle. Vous avez déjà vécu des activités professionnelles, vous nous l'avez dit, à Berlin et dans d'autres pays, des reportages. Pourquoi c'était 5 années les plus passionnantes de votre vie de journaliste?
Pour 2 raisons. La première, c'est que vu la place, il y a même 3 raisons. La première, c'est que vu la place qu'occupe la Chine dans le monde, il y a un tel besoin d'informations sur la Chine que c'est passionnant d'être journaliste là. On a quand même vu on est en train de voir le basculement un peu du monde, en tout cas l'émergence de ce sud global que la Chine voudrait fédérer. Donc, c'est très intéressant. Par ailleurs, si vous vous intéressez à l'actualité américaine, vous pouvez lire le New York Times ou les journaux américains. Si vous vous intéressez à l'actualité chinoise, c'est plus compliqué, et peut-être moins utile, de lire la presse chinoise. Donc, je pense qu'en tant que journalistes occidentaux, on a une véritable valeur ajoutée. Donc, on a vraiment un rôle important, même s'il faut rester modeste, on a un rôle de médiateur important. Et surtout, voilà, on est au cœur de la deuxième puissance mondiale et qui est en train de s'affirmer, qui veut même rivaliser avec les États-Unis. Mmh. Donc, c'était des années passionnantes. Et voilà.
Vous utilisez le mot de basculement de la planète. Vous venez de nous le dire. Vous écrivez dans votre livre « Vivre dans l'empire du milieu », c'est désormais jouir d'un point d'observation privilégié sur le basculement de la planète. Qu'est-ce que vous entendez par basculement de la planète? planète en parlant de la Chine.
On voit bien en tout cas que l'Occident est remis en question par de plus en plus de pays et que les valeurs que l'on disait universelles, que l'on croyait, que l'on espérait universelles, sont de moins en moins partagées, en tout cas sont de plus en plus contestées par un certain nombre de régimes. Et c'est surtout la Chine qui semble la plus légitime pour contester ces valeurs dites universelles en raison de son succès économique qu'elle lie à son régime politique. Donc voilà, on était persuadé jusque dans les années 2000 que la démocratie était un horizon indépassable parce que le plus efficace. On est en train de s'apercevoir que c'est pas forcément le cas. Donc c'est ce qu'on est en train de voir, même si à mon avis, les choses sont loin d'être faites.
Vous dites, et ça y est, c'était l'intention de votre livre, qu'il faut faire tomber les a priori ou les idées préconçues sur la Chine. Et on en a beaucoup. Hein. Je suis sûr que si on interroge les gens autour de nous, et vous avez dû le faire en souriant souvent sur toutes ces idées que l'on a sur la Chine. Et vous, vous êtes très clair dans votre livre, vous dites non, le Parti communiste ne contrôle pas tout. Non, la Chine n'est pas une immense prison à ciel ouvert. Non, la censure n'a pas lobotomisé les Chinois. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça de la part d'un journaliste du Monde qui a vécu sur place. On pense que c'est le Parti communiste qui contrôle tout en Chine. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que non ?
Parce que j'ai des tas d'exemples qui montrent que le parti ne contrôle pas tout. Et même le parti est une machine de 100 millions de personnes qui elle-même a sa propre bureaucratie, ses lourdeurs. Par exemple, si on prend la critique qu'on fait souvent à la Chine d'être Big Brother, d'utiliser une nouvelle technologie pour tout surveiller, c'est à la fois vrai et faux. Notamment, on a vu pendant la politique zéro Covid, moi je l'ai vu, passer d'une ville à l'autre, nécessité d'avoir un test pour montrer qu'on n'avait pas le Covid en sortant de Pékin, et tout de suite d'avoir un test pour montrer qu'on n'avait pas le Covid en arrivant dans l'autre ville, parce que les villes ne se font pas confiance. Voilà, c'est juste un petit exemple comme ça. Dès qu'on circulait, il fallait deux tests anti-Covid.
Mais là, on peut se dire, c'était une situation particulière, c'était celle du Covid. Mais dans une situation hors Covid.
Mais pareil, même dans une situation hors Covid, il y a une société en Chine, il y a une opinion publique en Chine. On l'a vu là aussi, c'est un exemple lié au Covid, mais qui est quand même intéressant. L'émotion liée à la mort du docteur Li en février 2020. Voilà, ce docteur qui à Wuhan était parmi les premiers en janvier 2020 à dire attention, Covid, danger. En tout cas, nouveau virus, danger, qui a été arrêté par la police. Et un mois et demi après, cinq semaines après, il est décédé du Covid. Et ça a provoqué une émotion énorme parmi les centaines de millions de Chinois qui l'ont exprimé, cette émotion, sur les réseaux sociaux. Si le parti contrôlait tout, il n'y aurait pas eu cette émotion qui aurait pu s'exprimer.
Mais est-ce qu'il ne contrôle pas aussi les réseaux sociaux ?
Il contrôle les réseaux sociaux, mais je pense que la censure fait un autre travail qu'être censuré, elle étudie ce qu'elle censure. Et donc, je pense que pour l'opinion, pour le pouvoir chinois, la censure lui permet aussi de voir ce qui est important et il laisse passer certaines revendications, certaines colères, parce qu'il sait que c'est important. Et voilà, il faut savoir aussi gérer la cocotte minute qui est une opinion publique d'1,3 milliard de personnes.
Mais alors, autre idée que nous avons tous, idée préconçue, peut-être, nous allons le voir avec vous, c'est que c'est l'homme fort qui dirige le pays, c'est Xi Jinping, qui est l'homme numéro 1 du Parti communiste, secrétaire général du Parti communiste, président de la Chine, et c'est lui qui dirige tout. Ça aussi, c'est une idée fausse. Ce n'est pas Xi Jinping qui dirige toute la Chine.
C'est Xi Jinping qui dirige le parti. D'un autre côté, on voit quand même des Chinois qui contestent à la chinoise l'ordre établi ou qui contestent aussi l'autorité de Xi Jinping. Alors, ils le disent à leur façon, évidemment, mais néanmoins, il y a une opinion publique, elle sait se faire entendre et malgré la censure, les informations passent en Chine. J'ai même tendance à dire que généralement, les Chinois savent davantage ce qui se passe à l'étranger que ce qui se passe en Chine même. Donc,
vous voulez dire que les Chinois peuvent se plaindre, peuvent râler, peuvent critiquer, et ça remonte en haut du parti ?
Tant qu'ils ne remettent pas en cause le parti lui-même, je pense que les Chinois ont une certaine latitude pour se plaindre de problèmes locaux. Alors après, s'ils se plaignent de manière trop véhémente, ça, évidemment, on met fin à leurs revendications. Surtout, je pense, la frontière, c'est, je pense que les Chinois peuvent se plaindre, mais il ne faut pas qu'ils se constituent en association, en organisation collective. Là, le parti veut vraiment contrôler toute, c'est pour ça que je ne dis pas qu'il y ait une société civile, je dis qu'il y a une opinion publique en Chine, mais pas une société civile, parce qu'il n'y a pas d'association véritablement indépendante du parti. Donc voilà, les gens peuvent se plaindre, mais plutôt
alors quoi,
à titre individuellement, individuel ou de manière informelle. Je veux dire, si on dit tous qu'on est triste de la mort du docteur Li, ça peut aller. Il ne faut pas qu'on fasse une association des amis du docteur Li. Voilà.
Mais alors, qui dirige vraiment la Chine ? Parce que, bon, en vous lisant, et puis quand on regarde l'organisation, il y a ce fameux Parti communiste chinois qui est énorme, enfin 98 millions de membres. Il y a Xi Jinping qui est le numéro 1. Il y a les membres du comité permanent du bureau politique du parti. Donc là, c'est les 7 membres les plus proches de Xi Jinping, tous des hommes. Il y a les 24 membres du bureau politique, tous des hommes. C'est eux qui dirigent vraiment la Chine ? Où c'est tout le parti, avec les 98 millions de personnes, qui font remonter ce qui se passe dans ce grand pays.
La réponse est à la fois simple et compliquée. Simple, puisque Xi Jinping lui-même a dit « le parti contrôle tout, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre ». Donc, voilà, la réponse officielle est celle-là. Et lui contrôle le parti. Il y avait des factions jusqu'à son arrivée, il les a fait taire pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Donc, on peut dire effectivement « le parti contrôle tout, or et Xi Jinping contrôle le parti ». Ça, c'est la version A. La version B, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment se prennent les décisions au sommet du parti. Je veux dire, le Parti communiste est une immense boîte noire dans laquelle il est très difficile de pénétrer. Et les Chinois, d'ailleurs, qui ne sont pas membres, se gardent bien d'essayer d'ouvrir cette boîte noire. Juste pour vous donner un exemple, je crois que c'était en mars 2020, Xi Jinping a fait une téléconférence avec 70 000 membres du parti, 70 000 responsables, pour parler de la situation du Covid. Personne n'est au courant de cette réunion avant qu'elle se déroule. Donc, ils sont capables de faire une réunion avec 70 000 personnes sans que ça se sache. Donc, voilà, pour vous montrer l'ampleur de la boîte noire. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, il y a sans doute des tensions en interne. Xi Jinping doit aussi sans doute faire des compromis. Et le parti ne contrôle absolument pas. On l'a vu à la fin de la politique zéro Covid avec les manifestations qui ont lieu à Shanghai et ailleurs. Il ne contrôle pas toute la Chine comme il le souhaiterait.
Frédéric Lemaître, est-ce que c'est pas frustrant pour le correspondant du journal Le Monde que vous avez été pendant 5 ans de se dire que finalement ce parti c'est une énorme boîte noire dans laquelle finalement je ne saurais rien hein ? Quand on est journaliste, on est curieux, on a envie de rentrer dans cette boîte noire. Comment vous avez vécu ça ?
Bah oui, évidemment, c'est frustrant, mais on essaye quand même. C'est pour ça qu'on passe, je vous ai dit tout à l'heure qu'on passait parfois pour des fauteurs de troupes, c'est que on ne respecte pas, nous, forcément, les règles du jeu établies par le Parti communiste, et on cherche à avoir des informations. C'est bête, mais c'est comme ça. Pour le parti, l'information ne peut être que descendante. C'est lui qui dit ce qu'il veut dire. Ce n'est que de la communication descendante. Bah, pour nous, c'est l'inverse, hein. On cherche aussi à avoir l'information, donc on essaye de...
Alors, comment voilà. Vous avez fait ?
Eh ben, comment on a fait ? On essaye de discuter avec le maximum de gens, les gens les mieux introduits possibles. On regarde aussi ce que disent les experts, tant en Chine qu'à l'étranger. Et voilà, on essaye de s'approcher le plus près possible du lion, mais on sait qu'on rentre jamais dans la cage, quoi, voilà.
Donc, le lion, c'est Xi Jinping. Vous avez rêvé de l'interviewer, oui. Vous ne l'avez jamais interviewé.
Ah ben, de toute façon...
On l'interview pas, Xi Jinping ?
Xi Jinping n'a jamais donné d'interview, même aux médias chinois, depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Donc, on n'interviewe pas l'empereur. Donc, voilà,
c'est intéressant ça, parce que c'est ce que faisait l'empereur. Il vivait dans la cité interdite, on ne l'approchait pas, voire même à une certaine époque, on ne le voyait pas. Xi Jinping est un peu comme l'empereur.
Carrément, oui. D'ailleurs, même, c'est marrant. Enfin, il n'est pas le seul dirigeant comme ça. Et par exemple, on ne le touche pas. On ne voit jamais de Chinois le toucher. À chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il y a les autres membres du comité permanent qui sont derrière lui, toujours. Et voilà. Non, évidemment, il est entouré d'une bulle. Ce qui me fait d'ailleurs dire que, contrairement à ce qu'on pense, Xi Jinping n'est pas forcément l'homme le mieux informé du pays, comme on le pense généralement dictateur. Je pense que parfois, à certains points de vue, il est l'un des moins bien informés du pays.
Mais vous dites dans votre livre que les membres du parti vivent un peu dans une bulle, qu'ils ne sont pas complètement en contact avec la réalité de la vie quotidienne.
Ça dépend, parce que sur les 100 millions de membres, vous en avez qui vivent dans les entreprises, on ne sait même pas qui sont membres du parti. Là, je parlais des dirigeants. Je pensais notamment à des responsables de province qui vivent effectivement dans leur bulle. Bon, il faut dire aussi que les provinces, c'est 50 à 60 millions d'habitants, donc c'est grand comme un pays de taille moyenne. Et ces types-là, quand ils se déplacent dans la capitale de la province, nous, on bloque les rues sur leur passage, ils ont droit à des ascenseurs privés, etc. Généralement, ils habitent dans des casernes ou dans des résidences officielles, donc ils ne sont pas, en fait, au contact du chinois moyen. Mmh. Non, ça, absolument.
Et comment on devient membre du parti ?
Ah, c'est très compliqué.
Et qui devient membre du parti ?
Il ne suffit pas de le demander, il faut que ce soit accepté. Le meilleur exemple encore est notre ami Xi Jinping, qui a attendu 9 fois, il a postulé pour être membre du parti dans les années 70. On lui dit non, parce que ton père a trahi Mao, donc il n'en est pas question. Et ce n'est qu'à la 10e tentative que Xi Jinping a réussi à devenir membre du parti, c'est vous dire. Alors maintenant, les choses sont un peu plus simples que dans les années 70. Néanmoins, être membre du parti est un parcours du combattant. Il faut d'ailleurs maintenant il vaut mieux être diplômé et avoir été parmi les meilleurs élèves de son école, de son lycée, de son université. Et là, on vous approche, on vous demande si vous voulez l'être, vous avez plutôt intérêt à dire oui, donc vous dites bah oui, pourquoi pas. Et là, on fait une enquête sur vous, on fait une enquête sur votre famille, vous avez des sessions de formation, enfin c'est un processus qui dure 2 à 3 ans.
Vous avez dit, Frédéric Lemaître, dans votre livre « 5 ans dans la Chine de Xi Jinping », qu'il y a une question que vous avez rêvé de poser à Xi Jinping.
Oui.
Ce serait, y a-t-il un apport de l'Occident à la Chine qui soit positif ? Pourquoi ce serait cette question-là que vous auriez aimé poser à Xi Jinping ?
Exactement. Et donc, comme vous avez compris, je n'ai pas posé cette question à Xi Jinping, puisque je n'ai jamais posé de question à Xi Jinping, puisque personne ne pose jamais de question à Xi Jinping.
Mais pourquoi vous auriez posé cette question ?
Voilà, vous posez celle-là, parce que justement, il y a une telle rhétorique maintenant anti-occidentale au sein du Parti communiste, et notamment dans les discours de Xi Jinping, qu'on a envie de lui demander, j'avais envie de lui poser cette question. Et donc, je ne lui ai pas posé, mais comme je le raconte dans le livre, je l'ai quand même posé à quelqu'un qui, indirectement, à une personne qui était responsable de la propagande, c'est-à-dire responsable de l'office de communication du gouvernement chinois. Et elle, tout de suite, elle m'a dit « Ah ben si, Karl Marx !» Et j'ai attendu la suite, il n'y a pas eu de suite. Donc voilà, il y a eu un apport occidental à la Chine, selon les dirigeants communistes, c'est Karl Marx.
Et à part ça, rien d'autre.
J'attends, elle a terminé là sa phrase. Donc,
Mais est-ce que ça veut dire que encore aujourd'hui, au 21e siècle, les Chinois ont une rancune envers les Occidentaux, et notamment suite à ce qu'on appelle l'humiliation des traités inégaux ? Est-ce qu'il faut relire vraiment l'histoire pour comprendre
les Chinois,
ce qui se passe aujourd'hui ?
Parce que justement, il y a un chapitre de mon livre qui est là-dessus. Je pense que cet anti-occidentalisme des élites chinoises, qui ne leur empêche pas d'ailleurs de mettre leurs enfants à l'être dans les universités américaines, je ferme la parenthèse, mais quand même cet anti-occidentalisme, c'est à mon avis une des différences entre l'élite communiste et la population. Je pense que les Chinois ne sont pas anti-occidentaux. Il y en a des dizaines de milliers qui vivent, de millions même, qui vivent aux États-Unis, en Australie, enfin bref, ailleurs, y compris en France. Donc il n'y a pas, je pense, d'anti-occidentalisme de la Chine, des Chinois. En revanche, c'est vrai qu'on a, nous, tendance à sous-estimer ce fameux siècle de l'humiliation, alors qui est exploité politiquement par le parti, qui ne cesse de mettre en avant les 100 ans, grosso modo, 1848, 1949, de l'humiliation des Anglais, des Français.
Et des Japonais, aussi, on ne dit pas assez, et aussi, des Russes.
Et aussi des Russes, alors, mais cela, la propagande les oublie actuellement. Donc c'est évident que ça a été exploité par le parti. Néanmoins, c'est vrai que c'est ça reste, je pense, présent. Par exemple, je ne peux pas le prouver, mais les États-Unis accusent aujourd'hui la Chine de favoriser l'exportation de fentanyl et donc de favoriser la consommation de ce qui est devenu une drogue aux États-Unis. J'ai quand même du mal à croire que pour les Chinois, c'est pas un peu la revanche de la guerre de l'opium. Je veux dire, c'est vrai qu'au 19e siècle, on a quand même fait la guerre à la Chine pour l'obliger à acheter l'opium anglais. Donc, et c'est vrai, obliger les Chinois à se droguer, il faut quand même le dire, c'est vrai. Donc, bon, est-ce que ce qu'on vit là, c'est pas une espèce de retour de bâton? En tout cas, c'est une interprétation possible et je pense que, elle est loin d'être la plus absurde.
Alors, vous nous avez dit il y a un instant, Frédéric Lemaître, que beaucoup de Chinois envoient leurs enfants faire des études aux États-Unis, en Australie, à Singapour, qui est aussi un modèle pour les Chinois. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de Chinois n'ont qu'un rêve, c'est de fuir la Chine et aller vivre en Occident, ou là encore, c'est une idée fausse, et que la majorité des Chinois, finalement, sont plutôt bien en Chine?
Alors moi je pense que la majorité des Chinois sont plutôt bien en Chine. Je dis d'ailleurs dans la conclusion de mon livre que la Chine est une dictature de la majorité. Voilà, la Chine n'est pas une prison, une immense prison à ciel ouvert. C'est pas comme ça que vivent les Chinois. En revanche, je pense, alors il y a deux questions. Je pense que beaucoup de Chinois, notamment de la classe moyenne et de l'élite, s'inquiètent du système scolaire chinois. Alors, comme dans beaucoup de pays d'Asie, enfin d'ailleurs c'est la même chose en Corée du Sud et au Japon, il y a un tel stress sur les enfants et sur les familles que c'est vraiment difficile à vivre pour les familles. Et c'est une des raisons pour lesquelles les familles asiatiques, et pas seulement chinoises, veulent que leurs enfants aillent en Occident. Par ailleurs, il y a un phénomène typiquement chinois qui est aussi maintenant la pensée de Xi Jinping qu'on apprend dès l'école maternelle aux enfants. Et ça, il y a quand même des Chinois qui disent non, là c'est trop, quoi. À la fois le stress des études plus maintenant le bourrage de crâne, là je veux autre chose pour mon enfant. Donc,
voilà. Mais ils veulent que leurs enfants aillent étudier aux États-Unis
reviennent. Oui, c'est ça. Je pense que la plupart rêvent de faire des allers-retours. Et voilà. Il y en a qui partent, évidemment, mais beaucoup reviennent. On le voit bien parmi les étudiants qui sont aux États-Unis et ailleurs, une grande partie reviennent en Chine pour diverses raisons, parce qu'ils ne sont pas forcément très bien accueillis d'ailleurs en Occident et parce que malgré le ralentissement de la croissance, ils pensent qu'il y a quand même des opportunités en Chine. Voilà, voilà, c'est quand même pas la Corée du Nord. Si vous n'êtes pas dans la politique, si vous n'êtes pas un militant, si vous vous intéressez pas particulièrement à l'histoire, évidemment, si vous êtes spécialisé dans les sciences humaines, je pense qu'il vaut mieux vivre en Occident. Mais si vous êtes ingénieur, si vous êtes scientifique, etc., vous avez des belles opportunités de carrière qui s'ouvrent à vous en Chine.
Est-ce qu'on peut dire que les Chinois sont des nationalistes?
Dans un pays d'1,3 milliard, moi, finalement, il y a une idée qui ressort de ce livre, c'est que toute idée simple sur la Chine est fausse. Donc, du coup, je ne peux pas dire les Chinois sont nationalistes. Je ne peux pas dire non plus que les Chinois ne sont pas nationalistes. Je pense qu'il y a de tout. Et de fait, je vois que même des Chinois qui critiquent leur pays n'apprécient pas que des Occidentaux fassent les critiques qu'eux-mêmes seraient susceptibles de faire.
C'est ça,
eux peuvent critiquer, mais pas nous, vous, quoi. On est rarement jugés légitimes pour le faire. Et donc, je pense qu'un certain nationalisme chinois, oui.
Visage, RCF.
Alors, j'aimerais bien sûr, Frédéric Lemaître, qu'on parle un instant des relations avec les États-Unis, puisque ce que l'on entend dire de plus en plus souvent, c'est qu'il y a une compétition, une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, une rivalité technologique. Qu'est-ce qu'il en est exactement, vous qui avez vécu 5 ans en Chine?
Ah ben oui, c'est évident qu'il y a un rapport d'amour-haine avec les États-Unis, voilà, que pour la Chine, la vraie puissance, avec laquelle ils sont en compétition, voire en rivalité, c'est les États-Unis, hein, l'Europe. Passe vraiment derrière.
On
nous sommes
pas.
Les laquais des Américains, selon une des expressions parfois en vogue encore à Pékin.
Ils nous voient comme ça, comme les laquais des Américains.
Ça dépend, ils le disent de temps en temps, mais par contre, quand ils veulent nous flatter en disant non, non, l'Europe est très importante, etc., la France aussi, vous êtes au Conseil de l'ONU. Donc c'est un peu plus subtil que ça, mais enfin, grosso modo, oui. Et ils pensent que de toute façon, on n'a pas les moyens de se défendre et que
tout ce qui est
en géopolitique, on
ne
fait pas le poids, absolument. Ni technologiquement.
Et la France encore moins, la France seule.
La France compte diplomatiquement parce qu'elle est à l'ONU. Je pense que la France ne compte pas économiquement. Grosso modo. L'Allemagne compte, c'est l'inverse. L'Allemagne compte économiquement plus que politiquement. Voilà. Mais donc voilà, il y a cette rivalité avec les États-Unis. Et mais qui les fascine parce qu'il y a quand même un modèle de développement alors qu'il n'est pas le modèle de développement américain. Mais voilà, le rival, c'est les États-Unis. Il faut arriver à la hauteur des États-Unis en 2049. C'est comme ça que
c'est l'objectif.
C'est l'objectif de Xi Jinping, hein, de venir au centre, se rapprocher du centre du monde, a-t-il dit.
Pour fêter le centième anniversaire.
Le centième anniversaire du Parti communiste.
Du Parti communiste.
Voilà.
1949.
Oui, partout il y a une rivalité. Voilà. Mais il y a quand même un soft power américain en Chine. C'est pour ça que je ne dirais pas que, la Chine est que les Chinois sont anti-occidentaux. Je veux dire, on le voit bien avec le succès de Tesla, d'Apple, même dans une moindre mesure des blockbusters d'Hollywood, etc. etc. Donc,
oui, mais voilà. En même temps, certaines entreprises sont interdites en Chine. Facebook est interdit.
Oui, absolument. Il y a quand même la grande muraille digitale, absolument. Donc,
tout ce qui est trait au digital.
Google. Oui, c'est ça.
Il y a Facebook, Google.
Facebook, Google, WhatsApp, évidemment. Enfin, les GAFA, Amazon aussi. Et
ils s'en passent. Les Chinois ont leur propre réseau.
C'est ça. C'est pour ça. Ils ont leur propre espèce d'immense intranet qui est remarquablement efficace en plus. Et donc, ils vivent bien. Il y a des Chinois qui ont des VPN qui sont ces logiciels qui leur permettent de contourner la censure pour avoir accès à Google et Facebook. Mais je vois bien qu'une grande majorité des Chinois vivent dans leur univers. Comme nous, on peut se passer de WeChat. Eux, ils se passent de WhatsApp et ils se passent de Facebook. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Lemaitre, que les Chinois sont fiers de leur pays aujourd'hui ?
Oui, je pense que les Chinois sont relativement fiers de leur pays, en tout cas de la modernisation de leur pays ces 30 dernières années, c'est évident. Je raconte dans mon livre qu'un jour, j'ai parlé avec des Chinois et une Chinoise m'a dit « Je ne suis pas communiste, mais j'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique et en Inde. » Et je suis bien obligé, quand on se compare, de voir que la Chine s'en sort mieux que les autres. Je veux dire, c'est vrai que ce pays est devenu extrêmement moderne, alors qu'il y a 30 ans, c'était vraiment un pays rural, quoi. Et ce que je dis aussi dans mon livre, il suffit d'aller dans un restaurant le week-end où les familles se retrouvent, et on voit le progrès entre les générations, entre les grands-parents qui font 30 cm de moins que leurs enfants, qui eux-mêmes font 20 cm de moins que les petits-enfants. Donc voilà, ça se voit.
Et ça, c'est lié aussi très clairement à l'alimentation.
C'est à l'alimentation.
Pas oublier que les Chinois ont
etc.
faim il n'y a pas si longtemps.
Bien sûr. Mmh. Au niveau de développement du pays, c'est clair. Voilà, et les Chinois qui encore, ça va très vite. Hein, il y a 10 ou 15 ans, mettaient des heures, voire des journées pour rentrer chez eux par des vieux trains archibondés de piètre et lent. Maintenant, circulent en TGV dans tout le pays et ne mettent plus que quelques heures pour rentrer chez eux. Voilà. Donc ça, ils le voient bien.
Mais Frédéric Lemaitre, ces Chinois qui ont le culte de la modernité, comme vous dites, cette modernité, il la trouve partout dans le pays, ou est-ce que c'est limité à la côte ou à certaines zones autour de Shanghai, Pékin, et pas dans les campagnes?
Non, c'est pas si simple que ça. Évidemment, la côte l'est du pays et notamment le sud-est est encore plus développé et ça va voilà,
la
pointe
Shenzhen,
de la modernité
Shenzhen,
de Shenzhen à Shanghai grosso modo, hein.
Là, c'est très développé, très moderne.
Voilà, mais le reste du pays aussi, je veux dire, c'est ça qui est assez bluffant, même vous allez dans des villes comme Wuhan ou même Chengdu, la capitale du Sichuan qui est très à l'ouest, qui est hyper moderne, je veux dire les grandes villes chinoises sont vraiment maintenant des îlots et de verdure et de modernité, il faut bien le dire.
Alors la question que tout le monde se pose, c'est le lien des Chinois avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une préoccupation? Vous avez un chapitre qui s'appelle « Une Chine plus verte, virgule, mais trois petits points. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ces trois petits points. Est-ce que le réchauffement climatique, c'est une préoccupation pour les Chinois ?
Oui, le réchauffement climatique et la pollution notamment sont vraiment des préoccupations des autorités chinoises, ça c'est incontestable. La Chine a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Je crois que c'est plus de 50% des énergies vertes qui sont maintenant en Chine. Je veux dire, la Chine a été fermée à cause du Covid jusqu'en 2023 et les Occidentaux qui sont rentrés en Chine depuis 2023, ce qui les frappe, c'est la modernité des villes et notamment la place qui occupe les voitures électriques. Et voilà, les villes sont devenues propres et silencieuses, quoi. Ça, c'est vrai.
L'image que l'on a de Pékin, ville polluée, couverte par la poussière du charbon, c'est fini.
Non, ça c'est fini. C'était essentiellement en 2013. Le pic de pollution à Pékin date de 2013, donc il y a maintenant plus de 10 ans. Et depuis, ça n'a cessé de progresser. Donc ce n'est pas totalement l'idéal. On peut toujours avoir des pointes de pollution en fonction du vent, etc. Mais grosso modo, on est passé de taux de particules là, par mètre cube, on atteignait 1000, à peu près ce qu'on a parfois maintenant en Inde, il y a 10 ans. Maintenant, on tourne autour de 70, 100, 150. C'est encore un peu trop. L'OMS dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 60. Donc voilà. Mais enfin, on n'est vraiment plus dans les situations où on hésitait à sortir, comme ça a été le cas il y a 10 ans.
Et voilà. Ça, permettez-moi, c'est une décision du parti se dire clairement. Maintenant nous allons lutter contre la
bien
pollution
sûr, parce que c'est
et
important.
Donc cette décision du parti est puissante et donc permet très rapidement de transformer une situation.
Oui, c'est quasiment le seul pays où ils peuvent fermer les usines et dire vous allez vous réinstaller à 50 km de là. Oui, donc la Chine est devenue un pays vert. Quand on voyage en Chine, on voit des centaines de milliers d'éoliennes, des panneaux solaires, on veut, tu en voilà. Donc cette réalité est incontestable. Mais il y a ces points de suspension. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, la Chine développe de nouvelles centrales au charbon. Et les énergies renouvelables ne se substituent pas aux énergies fossiles, elles viennent s'y ajouter. Donc on peut très bien faire les deux démonstrations. La Chine, c'est le paradis vert, mais la Chine ouvre plus de centrales au charbon maintenant qu'il n'y en a en fonction aux États-Unis et en Inde confondus. Donc la Chine est aussi de plus en plus noire.
Wow, et alors pourquoi les Chinois restent accros au charbon, comme vous dites ?
Parce qu'ils ont besoin de tout et ils ont besoin pour le développement économique de toutes les sortes d'énergie. Donc ils prennent tout ce qui passe et il se trouve qu'ils insistent beaucoup, comme tout le monde maintenant, sur la sécurité nationale et l'indépendance énergétique. Et ils ont du charbon, voilà, comme l'Inde, comme l'Allemagne aussi, plus proche de nous. Et donc ils continuent de faire tourner leurs centrales au charbon.
Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de plus en plus d'énergie.
Ils ont besoin de plus en plus d'énergie.
Tous les moyens sont bons.
Absolument. Et voilà.
Mais ça veut dire qu'ils sont quand même conscients qu'en agissant ainsi, ils participent au réchauffement
climatique.
Oui, mais ils ont,
honnêtement, je pense qu'ils ont le même dilemme que dans nos pays. À moyen terme, on sait qu'il faut séparer du charbon et des énergies fossiles, mais le court terme l'emporte dans les décisions politiques, et parce qu'on veut éviter les coupures de courant, parce qu'on veut aussi l'indépendance énergétique. On continue d'utiliser le charbon. Enfin, franchement, la problématique n'est pas très différente de celle qu'on connaît en Europe et aux États-Unis.
是。 车，灼灼开合动声色，一再的率性而活，天北地展日月盈怀，合一的世界大自在，自信中无有惧怕，情深不藏，情真不幻，顽固千秋有梦与回，合一里沧桑心中不由挣扎，扑风遥远，自如纵横，呼，潇洒如梦，惊鸿。
Frédéric Lemaître, j'aimerais qu'on parle de ce que vous appelez dans votre livre le mythe de l'État orwellien. On a tous entendu parler de ce fameux crédit social sur un gouvernement chinois surveillant chaque personne, notamment avec la surveillance faciale. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement, vous qui, comme correspondant du Monde, y avez passé 5 ans récemment?
Alors, certes, je pense que l'État a les moyens de contrôler la population davantage que dans n'importe quel autre pays, notamment grâce aux nouvelles technologies. En revanche, je dis qu'il n'y a pas de crédit social parce qu'on a l'impression, à lire certains médias occidentaux, que tous les Chinois ont une note en fonction de leurs idées politiques, en fonction de leur comportement d'automobilistes ou de piétons dans les rues, etc. Puisque comme il y a ce n'est pas vrai que chacun a des points, a une note globale en fonction de son comportement.
C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que certains de vos confrères journalistes nous ont dit.
Je m'insurge parce que je fasse des fautes, tout bêtement. Le crédit social existe. Mais en fait, il ne concerne à 98% que des chefs d'entreprise qui n'ont pas payé l'équivalent des URSSAF, grosso modo. Voilà. Vous avez des chefs d'entreprise qui ne payent pas leurs cotisations sociales. Ils ont d'abord un rappel, puis un deuxième rappel, un troisième rappel. Et au bout d'un moment, ils ont une note négative et on les empêche de prendre le train ou l'avion. Enfin, ils ont des sanctions comme ça. Mais ce n'est pas vrai que toute la population est notée en fonction de son comportement. Donc, il n'y a pas de crédit social. Tout bêtement, je répète, on n'a pas une note globale en fonction de... Enfin, les Chinois n'ont pas une note globale en fonction et de leurs idées politiques et de leur comportement.
Alors, pourquoi vos confrères journalistes véhiculent des informations comme cela?
Alors ça, je ne sais pas. Il faut leur demander.
Je vous pose la question quand même.
C'est évident. Alors déjà, ce système existe dans une partie du pays, même s'il n'y a pas de notes. C'est évident au Xinjiang, où les Ouïghours sont plus qu'étroitement surveillés par le pouvoir.
Donc là, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle, les Ouïghours sont musulmans et sont étroitement surveillés.
Voilà, parce qu'on les soupçonne de vouloir
être indépendantistes.
C'est ça. Donc, le Xinjiang est un cas particulier.
Donc là, il y a beaucoup de surveillance faciale.
Il y a beaucoup de surveillance faciale. Il y a aussi de la surveillance faciale ailleurs, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas une note globale et où le Chinois qui pense mal ou critique Xi Jinping n'a pas le droit de prendre le train ou d'aller à l'hôpital. Enfin, ça, c'est totalement faux, quoi. Donc, voilà. Alors, le système de surveillance, on voit que tout est en place. Ça pourrait éventuellement avoir lieu, mais je pense que le parti se méfie parce qu'il sait que la population y est réticente. Par exemple, ça fait des années que la municipalité de Pékin nous dit qu'on va avoir la reconnaissance faciale dans le métro à Pékin. On ne l'a toujours pas parce qu'ils savent très bien qu'une partie de la population est très hostile à ça. Donc, c'est pour ça que je pense que la population, enfin l'opinion, compte en Chine. Et voilà, donc un système de surveillance ou de sécurité, on l'appelle comme on veut, ce que je dis, les caméras, bon, il y en avait 74 dans ma rue, d'après ce que j'ai compté. En tant que journaliste, je déteste ça. En tant que parent, on est assez ravis de pouvoir se balader, que nos enfants puissent se balader le soir dans les rues.
Vous dites qu'il y a une sécurité
absolu maintenant et qui est apprécié des Chinois et des Chinoises notamment, mais aussi de tout le monde, quoi. Donc voilà, donc ça joue et donc il peut y avoir un contrôle social. Je pense qu'il y a un contrôle par la population aussi, mais il n'y a pas de Big Brother et un crédit social aussi.
Quand vous dites contrôle par la population, ça veut dire quoi? Il y a délation si on sent que telle personne est critique vis-à-vis du parti?
Critique vis-à-vis du parti peut-être, mais vous avez quand même encore des des comités de quartier avec des grands-mères qui sont au coin des rues, etc. et qui, dans le meilleur des cas, vous protègent et dans le pire des cas, vous surveillent. Elle joue un peu les deux, quoi, hein, entre les entre assistantes sociales et gardiennes de la paix.
Et vous, personnellement, comment vous avez vécu ça pendant ces 5 années où vous étiez correspondant du Monde? Vous avez été surveillé.
Bien sûr.
Comment on vit d'être surveillé, d'être finalement assez sur ses gardes en permanence, sur ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va transmettre par téléphone, par écrit? Comment on vit ça? Comment vous avez vécu ça?
Moi, je ne l'ai pas mal vécu parce que je suis parti du principe. J'ai écouté la phrase de Xi Jinping. Et à partir du moment où Xi Jinping dit « le parti contrôle tout le nord, le sud, l'est, le centre », je suis, tout est une information pour moi. Donc, être surveillé, c'est une information. Pouvoir me déplacer, c'est une information. Ne pas pouvoir me déplacer, c'est aussi une information. Avoir un flic qui me suit, c'est une information. Voilà, quand on le prend comme ça, c'est pour ça que je dis que c'était passionnant d'être en Chine.
Mais
pas
comment
forcément
on
facile,
filtre ce qu'on mais... doit transmettre, que l'on peut transmettre, sur ce que l'on voit, et puis ce qu'on ne peut pas transmettre?
Ça dépend ce que vous appelez transmettre. Si c'est transmettre à Paris, je n'ai aucun problème avec ça et je ne me suis jamais auto-censuré dans mes écrits. Ça, même si ça, parfois, ça n'a pas plu au parti et si j'ai pu me faire, entre guillemets, réprimander par des responsables qui n'ont pas apprécié mes écrits, j'étais totalement libre d'envoyer, évidemment.
On vous a jamais menacé de vous renvoyer?
Mais à la limite, on ne
m'a... Ou de ne pas renouveler votre visa?
Oui et non, on ne m'a jamais menacé de me renvoyer, mais même si on m'avait renvoyé, eh bien voilà, c'est une information. Par contre, de fait, j'ai eu des visas, j'ai été puni pour une série d'articles sur Xi Jinping que Le Monde a publié et à laquelle j'ai contribué à l'été 2019. Donc ça n'a pas plu au pouvoir et donc ça, ils me l'ont dit explicitement. Au lieu d'avoir un visa d'un an, j'ai eu 2 visas de 3 mois, puis après 2 visas de 6 mois. Voilà, c'est les punitions. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de faire cette série et d'écrire tout ce qu'on a écrit sur la Chine. Donc là-dessus, j'étais totalement libre d'écrire ce que je voulais. Après, je vous l'ai dit, je me suis auto-censuré parfois pour ne pas mettre en danger des Chinois. Ça, c'est autre chose.
Frédéric Lemaître, vous avez un chapitre sur les religions en Chine. Alors ça, c'est intéressant. Vous nous avez dit tout à l'heure que le seul apport positif était Karl Marx. On se souvient tous de la phrase de Karl Marx, comme quoi les religions, c'est l'opium du peuple. On est dans un pays officiellement laïque en Chine. Quel est le rapport aujourd'hui du Parti communiste avec les religions? Sont-elles autorisées, interdites ou tolérées?
Alors je pense qu'il y a religion et religion. Et d'un, il y a les religions chinoises.
Le taoïsme,
le confucianisme et on peut mettre aussi le bouddhisme. Donc celles-là sont, on va dire, tolérées mais encadrées. Voilà. Mais parce que les Chinois restent religieux et voilà, le taoïsme est partout, même.
Le communisme n'a pas effacé le sentiment religieux chez les Chinois.
Là, franchement, il n'y a qu'à voir le nombre de millions de Chinois qui, aux dates fixées par le calendrier, brûlent de l'encens ou des billets de banque pour communiquer avec l'au-delà. Enfin voilà, moi j'ai assisté à des pèlerinages taoïstes, il y a des milliers de gens qui au printemps allaient dans les temples pour rendre hommage aux divinités taoïstes. Il y a des prêtres, alors ils sont plutôt contrôlés. Mais enfin, donc voilà, ces religions-là vivent difficilement, mais elles existent. Et en tout cas, le religieux est encore un peu partout en Chine. C'est beaucoup plus compliqué pour les religions occidentales, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, mais aussi, c'est évidemment aussi compliqué pour l'islam, qui sont là beaucoup plus contrôlés, qui sont plus qu'encadrés, qui sont véritablement contrôlés, voire réprimés.
On parle dans certaines revues chrétiennes de persécution chrétiens, et notamment des protestants. Beaucoup d'églises protestantes ont été fermées, des pasteurs emprisonnés.
Bien sûr.
C'est une réalité.
Oui, c'est une réalité. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le parti refuse toute organisation qu'il ne contrôle pas. Et donc, quand il y a une église protestante qui a trop de succès, de fait, les pasteurs peuvent être condamnés, réprimés et condamnés, ça va de soi.
Et c'est parce que la plupart de ces églises sont financées par les États-Unis?
Je ne sais pas si elles sont financées par les États-Unis, mais je pense que certaines le sont ou l'ont été, mais je pense surtout que voilà, parce qu'elles veulent faire preuve d'indépendance à l'égard du parti.
Et le parti n'accepte pas ça.
Et le parti, évidemment, n'accepte pas ça.
Et par rapport à l'Église catholique, c'est la même chose? C'est parce que les catholiques dépendent du pape et
évidemment,
de Rome?
Évidemment,
et bien ça, entendu. Le parti ne l'accepte pas.
Le parti ne peut pas l'accepter, d'où d'ailleurs le compromis qui a été conclu hein, entre le Parti communiste et le Vatican sur la, en 2018 et qui a été renouvelé entre-temps sur la nomination des évêques. Vous savoir qui a le dernier mot, est-ce que c'est Rome ou est-ce que c'est Pékin?
Donc, et c'est Pékin pour le moment.
On ne connaît pas la teneur de cet accord. Manifestement, il semble que c'est Rome qui propose et que Pékin dispose, je crois, mais je n'en suis pas sûr.
Mais est-ce que ces religions attirent les Chinois?
Bien entendu. Notamment le protestantisme, enfin, les évangéliques ont aussi le vent en poupe en Chine. On dit que, sauf erreur, il serait plus de plusieurs dizaines de millions, donc à terme, ils seront plus nombreux que les communistes. Voilà, même si apparemment il y aurait une espèce de plateau. Le catholicisme aussi attire. Alors, on parle peut-être de quelques millions de personnes, millions ou dizaines de millions de personnes. C'est moins important que le protestantisme, mais oui, bien sûr, ces religions attirent, oui.
J'aimerais qu'on parle également des minorités ethniques, parce qu'on parle toujours des Chinois comme si c'était un ensemble uni. Alors, c'est vrai que même si les Han, c'est l'ethnie majoritaire, hein, pratiquement à 92% de la population, je crois qu'il y a 105 millions de membres de minorités ethniques, de 55 minorités ethniques. Vous dites, en fait, le système chinois est un système d'assimilation.
C'est ça.
En fait, on veut les intégrer.
C'est ça.
Et on veut les siniser, quoi.
C'est ça. Donc, on ne nie pas ces minorités qui ont été reconnues du temps de Mao. Donc, il y a 56 nationalités, 56. Donc 55 minorités et une majorité, les Han. Mais de fait, ce qu'il faut, c'est non pas développer leurs caractéristiques propres, mais les assimiler à la grande nation chinoise. Et donc, on ne les tolère que de manière touristique et folklorique. Le problème, alors, justement, de ces minorités, c'est que dans ces minorités, vous en avez quelques centaines ou 1000 ou 2000 personnes, mais vous en avez quand même comme les Ouïghours, c'est plus de 10 millions, quasiment 12 millions. Donc, minorité, bon, ok, mais enfin, bon.
Et la politique est la même, hein, que ce soit au Tibet, chez les Ouïghours.
Je dirais plutôt que plus ils sont importants, plus ils sont réprimés, quoi. Faut pas croire que plus ils sont nombreux, plus ils ont de droits. Non, absolument pas. Donc voilà, et effectivement, pour le parti, notamment pour Xi Jinping, parce que c'était pas forcément le cas de ses prédécesseurs. Il n'y a pas question de lâcher du lest et de leur donner une certaine autonomie, contrairement à ce que dit officiellement, parce que le Tibet et le Xinjiang sont des régions autonomes officiellement, en fin de compte c'est sans doute les régions les moins autonomes de toute la Chine. Et évidemment, là, tout passe par l'assimilation.
Visage, l'expression de l'être.
Est-ce qu'il fait bon vivre en Chine? Je vous le demande à vous, ancien correspondant du Monde, mais est-ce que pour les Chinois, il fait bon vivre et ils sont très contents de vivre en Chine?
Je ne sais pas s'ils sont très contents de vivre en Chine, mais je pense qu'une majorité de Chinois sont contents de vivre en Chine parce qu'ils voient quand même le progrès qui a été réalisé par leur pays ces 30 dernières années. Alors certes, maintenant, la situation est un peu moins favorable que dans les années 2000. C'est vrai que la croissance ralentit. Grosso modo, quand même, j'ai l'impression que quand je suis arrivé en 2018, les Chinois étaient plutôt optimistes sur l'avenir de leur pays. Et maintenant, pour des raisons politiques, ils ont tendance à être plus pessimistes. Voilà, parce qu'ils voient que Xi Jinping s'est rechoué le pouvoir, qu'il fait un troisième mandat, etc., etc. Donc, on est passé, je dirais, du rose au gris. Mais ce n'est le gris, il y a différentes nuances de gris, comme chacun sait. Et ce n'est pas le noir, et c'est pour ça que je dis que Chine
n'est pas une immense prison. Mais est-ce qu'ils sont inquiets vis-à-vis de la question de Taïwan? Et est-ce qu'ils ont peur que leurs enfants soient envoyés pour faire la guerre contre Taïwan?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut répondre de manière générale, mais je pense que les Chinois expriment de plus en plus leur inquiétude face à Taïwan. Certains, soyons clairs, pour les Chinois, Taïwan, c'est la Chine, il n'y a pas débat. Mais de là à vouloir faire la guerre pour reprendre, la réunifier Taïwan, comme dit le parti, il y a un pas, effectivement, quand on est Chinois, comme dans n'importe quel pays du monde, on n'a pas envie que son fils, notamment son fils unique, aille mourir pour une cause qui n'est pas essentielle à vos yeux, parce que la Chine n'a manifestement pas eu besoin de Taïwan pour devenir un grand pays.
Est-ce que ça veut dire que la menace de guerre avance en Chine? Est-ce qu'il y a un risque sérieux de guerre prochainement, c'est-à-dire dans les 2-3 années à venir, d'invasion vu du côté de Taïwan par la Chine continentale?
Je dirais plutôt non. à 2 ou 3 ans. D'ailleurs, les experts taïwanais que j'ai rencontrés là en 2023 m'ont dit que la Chine ne sera pas prête avant 2030-2035.
Et vous dites que les Taïwanais ne sont pas très inquiets dans votre livre.
Je dis que les Taïwanais sont moins inquiets qu'on pourrait le penser, pour deux raisons. Parce que nous, on parle toujours des grandes manœuvres militaires autour de Taïwan, mais les avions et les bateaux chinois, enfin les avions chinois ne passent pas au-dessus de Taïwan. Ils sont dans l'espace aérien, mais ça reste à des dizaines de kilomètres des côtes. Donc les Taïwanais, quand ils lèvent la tête, ils ne voient pas un avion chinois. Ça, c'est la première chose. En plus, ils disent, mais de toute façon, c'est de la propagande, ils ne veulent pas, nanana, et puis nous, on sera protégés par les États-Unis. Ils peuvent se tromper d'ailleurs. Mais en gros, c'est ça. Donc ils sont à la fois inquiets, mais ils ne pensent pas que le danger soit à court terme. Néanmoins, il peut y avoir très bien des incidents, il peut y avoir des choses, et on ne sait jamais ce qu'un Xi Jinping vieillissant et autoritaire peut être amené à faire dans les années qui viennent. Donc c'est pour ça que je reste prudent, je ne dis pas évidemment qu'il n'y aura pas de guerre, mais je ne pense pas que ce soit l'hypothèse la plus probable à court terme.
Et vous pensez, vous, Frédéric Lemaître, que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale, ou est-ce qu'on est dans une phase plutôt de déclin de cette puissance?
Non, elle décline pas. Pour maintenant, elle progresse moins vite qu'elle n'a progressé, mais elle continue d'avoir une croissance positive, alors que la population chinoise, elle, est en train un peu de décliner. Ce qui veut dire que chaque Chinois...
C'est le gros problème, la baisse de la démographie chinoise pour l'avenir?
C'est un des gros problèmes, et ce qui est surtout un des gros problèmes, c'est le vieillissement de la population et les conséquences sur la protection sociale chinoise. Ça, c'est un défi majeur de la Chine dans les décennies à venir, oui.
Et vous le dites, très peu d'étrangers qui viennent s'installer en Chine.
Ah bah pour maintenant, c'est un pays totalement, qui n'accueille pas les étrangers.
0,0006% d'étrangers en Chine.
C'est ça. Officiellement, 800 000 étrangers en Chine, c'est-à-dire deux fois moins qu'en région parisienne.
C'est incroyable.
Voilà.
Et justement, que pense-t-il faire pour lutter contre ce vieillissement de la population?
Le sujet est tabou. On pense à réponse, ça va être peut-être des robots, etc. Je n'en sais rien. Je vois mal comment ils vont pouvoir échapper à ouvrir les portes à une immigration, comme les pays riches asiatiques, avec des femmes venues de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines, etc.
Comme Hong
Kong.
Comme
en Taïwan aussi. Donc, voilà.
Frédéric Lemaître, on arrive bientôt à l'issue de cette émission ensemble. Vous écrivez dans votre livre « 5 ans dans la Chine de Xi Jinping ». S'il y a bien une leçon que j'ai retenue de ces 5 années, c'est qu'il faut se garder de toute lecture univoque de la Chine. Comment faire pour se garder de... Parce que tout le monde ne va pas avoir la chance d'aller vivre en Chine comme vous l'avez fait. Comment faire pour ne pas avoir ces lectures souvent trop univoques sur cet immense pays?
Je crois que j'essaye de le démontrer dans mon livre. Je pense qu'il faut être à l'écoute de la société chinoise, et celle-ci est quand même plus diverse qu'on le dit. Voilà. Ma thèse est qu'on surestime l'influence que les dirigeants occidentaux peuvent avoir sur Xi Jinping, mais qu'on a tendance à sous-évaluer l'importance et l'influence que peut avoir la population chinoise sur ses dirigeants, tant que cette population ne remet pas en cause le primat du parti. Et voilà. Donc il faut écouter la Chine. C'est pas seulement écouter Xi Jinping, c'est écouter la société chinoise dans toute sa diversité. Voilà, évidemment, il vaut mieux être en Chine pour le faire, c'est pour ça que j'ai fait un livre, mais il y a également des tas de moyens, même quand on est en France, d'écouter les Chinois. Voilà.
Mais faut-il trembler face à la Chine? Vous voyez l'allusion que je fais à ce vieux livre maintenant de Perfit, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Est-ce qu'il faut trembler?
Je pense que la Chine va... Enfin non, je ne pense pas qu'il faille trembler, parce que c'est un fait. De toute façon, la Chine ne va pas changer. Ou en tout cas, si la Chine change, c'est parce que les Chinois le voudront et non pas parce que les Occidentaux le voudront. Et je pense que... Personnellement, je tremble davantage quand je vois les failles de notre système démocratique. C'est surtout ça qui me fait trembler.
Et en France et aux États-Unis aussi.
Notamment aux États-Unis, évidemment. Évidemment, bien sûr. Et là, je pense que c'est inquiétant. Et évidemment, ça ne peut que donner du grain à moudre à la propagande chinoise. C'est ça qui est inquiétant.
Une question personnelle pour terminer, Frédéric Lemaître. Qu'est-ce que ces 5 années en Chine ont changé, peut-être chez le journaliste que vous êtes, mais aussi chez l'homme que vous êtes?
Chez le journaliste, je pense que voilà, j'ai aussi fait ce livre parce que quand on est journaliste, on a toujours tendance à montrer les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et dans un pays d'1,3 milliard d'habitants, il y a évidemment toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et comme Xi Jinping dit qu'il est responsable de tout, notre travail c'est de dire les trains n'arrivent pas toujours à l'heure. Bon, mais il faut aussi montrer que 99% des trains arrivent à l'heure. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc voilà, c'est aussi une réflexion. Ce livre est aussi une réflexion sur le journaliste. Et bon, par ailleurs, ce qui est, l'homme, je pense, a une autre vision du monde. Déjà, quand j'étais correspondant en Allemagne, ma vision de la France a changé. Et là, en étant en Chine, je vois cette émergence du Sud global et cette remise en cause de l'Occident. Manifestement, c'est une tendance lourde des décennies à venir.
Merci beaucoup, Frédéric Lemaitre. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à me plonger dans votre livre, donc 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, que vous avez publié aux éditions Talendier. Puis merci en quelques minutes d'avoir essayé de résumer ces 5 années de vie dans ce pays.
Merci à vous surtout.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.